L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Spoutnik Afrique à Moscou, Nicole Ngo-Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun et ex-PDG de banque. Avec elle, nous allons parler du système bancaire africain et de son rôle dans l'économie du continent, sa résilience face à la crise internationale et enfin du poids du système du franc CFA sur les dynamiques de développement des pays membres de cette zone. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La panique bancaire actuelle témoigne plus que jamais d'une situation qui ne cesse de se compliquer pour les banques centrales. En effet, suite à la faillite de la Silicon Valley Bank, suivie par deux autres, et le risque grandissant de nouveaux incidents, près de 200 banques commerciales américaines sont aujourd'hui dans la même situation que SVB. Selon une récente étude, l'inquiétude a pris le dessus et les ventes forcées se sont succédées sur les marchés. La JP Morgan évalue à 1 000 milliards de dollars le montant total retiré des banques les plus vulnérables au cours des trois dernières semaines du mois de mars. La même banque américaine indique également que la moitié de cet argent est investi dans des fonds de placement monétaire du gouvernement. Malgré l'actuelle panique bancaire, les banques centrales ont annoncé plusieurs relèvements de taux d'intérêt. Ces décisions sont portées par le niveau d'inflation qui demeure très élevé et dont les effets ne peuvent être négligés. La dernière fois qu'un tel scénario s'est produit, c'était lors de la crise de 2007-2008, lorsque la banque Lehman Brothers fait faillite. Plus que n'importe quelle autre chose, les banques centrales hors États-Unis craignent les effets des hausses de taux de la Réserve fédérale sur la stabilité financière. En effet, l'appréciation du dollar induite par la politique monétaire de la Fed présente un risque systémique à cause du renchérissement des coûts de financement en dollars, ce qui peut mettre beaucoup de banques internationales dans de graves problèmes de solvabilité. Quel risque de voir cette crise bancaire internationale impacter les banques africaines ? Ces dernières arrivent-elles à jouer leur rôle de pourvoyeur de fonds pour l'économie ? Quels sont leurs mécanismes de travail et sont-ils adaptés aux besoins des économies locales ? Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Nicole Ngo-Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun. Nicole Ngo-Banolok, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et merci de me recevoir aujourd'hui.
Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors la première question, Madame Banolok, face à la situation de la crise bancaire internationale et d'incertitude, le cours de l'or ne cesse de croître depuis le début du mois de mars. Il a récemment dépassé les 2000 dollars l'once à la Bourse de Londres avant de se stabiliser autour de 1950. Et là, il repasse encore au-delà des 2000 dollars l'once. Ceci rappelle à bien des égards, je crois que vous serez d'accord avec moi, la situation du monde en 1929 suite à la Grande Dépression économique. Alors, où en est le système bancaire africain, notamment camerounais, que vous connaissez certainement bien, face au risque de contagion de cette crise ? Et est-ce que les banques africaines sont-elles protégées face à ce genre de situation ?
Merci pour cette question. Effectivement, en ce moment, l'environnement mondial est secoué par la crise, une crise bancaire. Nous espérons qu'elle ne sera pas comme la crise de Lehman Brothers et que, effectivement, il n'y aura pas une contagion au niveau des banques africaines. Mmh. Comment le système bancaire aujourd'hui, est-ce que le système bancaire africain est résilient ? Est-ce que le système camerounais est résilient ? Il faut noter qu'après la crise économique dans les années 90 au Cameroun, de manière générale, la régulation a été revue au niveau de la communauté économique de l'Afrique centrale. Mmh. Donc on a renforcé une régulation clair des banques, un contrôle très très sévère à travers la commission bancaire. Cette régulation, effectivement, permet le contrôle des provisionnements, de voir s'il peut y avoir des créances douteuses qui ne sont pas signalées par les banques, de vérifier la position financière des banques au moins tous les trimestres, de vérifier la gestion des risques. Il faut aussi noter qu'après la crise de Lehman Brothers, Basel III, qui a été validé par le système mondial, a demandé et a redemandé aux banques de renforcer leurs fonds propres. Mmh. Ce qui permettrait effectivement, en cas de difficulté financière, que la banque puisse effectivement gérer tous ces soubresauts-là. Donc je pense aujourd'hui que les contrôles qui sont faits par la commission bancaire ont dû, en principe, vérifier si les fonds propres sont au niveau qui avait été demandé par Basel III, si effectivement les créances douteuses sont provisionnées telles que la réglementation de l'Afrique centrale le demande, si effectivement les positions financières telles que présentées par les banques au travers de leurs déclarations comptables sont effectivement celles qui sont effectives au niveau de la gestion quotidienne. Je pense aussi que dans les années 90, suite à ces difficultés, même après la crise de Lehman Brothers, et même après le Covid, les gouvernements de l'Afrique centrale avaient pris certaines décisions économiques lorsque les banques avaient des difficultés pour permettre effectivement de réguler un certain nombre de problèmes. Donc on peut prendre effectivement un certain nombre de décisions économiques qui peuvent venir aider à résoudre en cas de crise forte venant effectivement de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Selon les rapports du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, la plupart des pays de la CEDEAO, le Mali, le Niger par exemple, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, le Tchad, font partie des pays les plus pauvres de la planète, notamment si l'on regarde l'indice de développement personnel ou développement humain, comme on l'appelle, malgré le fait que certains d'entre eux exportent des matières premières, comme l'uranium. Il y a d'autres pays, comme le Congo et le Gabon, outre le fait qu'ils sont exportateurs de pétrole, demeurent aussi et encore sous-développés. Alors, pourquoi tous ces pays sont dans un état économique désastreux depuis plus de 60 ans après leurs indépendances? Et est-ce que les banques africaines ont leur part de responsabilité dans cet état de léthargie de l'économie africaine?
Je vais d'abord commencer par... J'aime toujours commencer en parlant d'abord de nos responsabilités en tant qu'Africains.
Oui, bien sûr.
Je pense que le choix, l'acceptation des politiques de développement par nos gouvernants entre les années 60 et 2000 ont été des choix un peu hasardeux qui n'ont pas pris en compte effectivement l'aspect social. Je pense que c'est après les années 2000, aujourd'hui avec la notion de l'équité, qui revient très souvent dans les discours politiques, l'aspect social a commencé à être pris en compte. La deuxième chose aussi, c'est les questions de gouvernance. On va toujours parler des questions de gouvernance en Afrique, des questions de corruption, des questions de collusion d'intérêts. Mais il y a aussi que les économies africaines se sont réveillées tardivement, surtout ceux qui sont riches en termes de matières premières. On n'a pas su développer à un moment l'agriculture, la transformation agroalimentaire au niveau de nos États. On a cru à un moment que lorsqu'on a du pétrole, lorsqu'on a des ressources minières, cela suffit effectivement à transformer un pays. Sauf qu'on a oublié que nous ne fixons pas les prix du marché international. Ces prix sont fixés ailleurs et nous les subissons.
Donc, si est importé, non seulement les pays ne fixent pas les prix des hydrocarbures exportés, mais en plus de ça, les prix des produits de consommation qui sont importés ou d'équipements qui sont importés aussi sont
les prix sont fixés à l'étranger et ne pas avoir effectivement aussi encouragé l'agriculture, l'élevage, fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de ces pays sont dépendants de l'import du riz, du blé. Donc, l'ensemble des devises qui peuvent être générées, qui sont générées par la commercialisation de ces matières premières, qui devraient venir développer les économies, repartent dans l'importation des produits de consommation courante. Mmh. Donc, ces pays se retrouvent effectivement dans un jeu ambigu qui est aujourd'hui un peu difficile à en sortir. Je pense que ça prendra du temps. Je pense qu'aujourd'hui, ces gouvernants commencent à comprendre que les matières, on ne peut pas adosser son économie rien que sur la commercialisation des matières premières. L'autre chose aussi, c'est la prise de conscience des accords qui sont signés au niveau, effectivement, même du choix des entreprises qui viennent exploiter, effectivement, ces minerais en Afrique. Je pense qu'avec les questions de bonne gouvernance aujourd'hui, ces États prennent en compte, effectivement, un certain nombre de réalités qui n'étaient pas prises en compte avant. Donc, une partie, en réalité, de ces revenus devrait revenir au niveau des villages, là où on exploite effectivement ces minerais-là. Donc je pense qu'avec le temps, on a pris 60 ans pour le faire, il n'est jamais trop tard. Je pense qu'avec le temps, on va progressivement corriger les accords. Il y a des accords qui ont été signés qui, à un moment, vont arriver à échéance. Mmh. Peut-être faudra les renouveler, peut-être on fera le choix de nouveaux partenaires ou on pourra revoir ces contrats dans une autre forme et effectivement en appliquant l'aspect social qui est fondamental effectivement dans la gestion effectivement de ces minerais. Maintenant, est-ce que les banques ont une part de responsabilité? Oui, je pense que toutes ces problématiques sont liées. Après les indépendances, on avait la majorité des banques étaient étrangères. Mmh. Donc le choix des financements se faisait sur la base des filiales des activités. Ces banques étrangères avaient tendance à financer beaucoup plus les produits qui les intéressaient, ce qui était beaucoup plus les produits de base. Et les matières premières, les minerais. Mmh. Et le pétrole, évidemment. Donc, après, effectivement, on a quand même vu la naissance de certaines banques panafricaines, de grosses banques sud-africaines, qui aujourd'hui sont venues quand même contrebalancer, effectivement, au niveau de ces banques étrangères. Donc, maintenant, la problématique aussi, c'est: est-ce que ces banques font le choix de financer effectivement les entreprises? Parce qu'il faut voir aussi qu'en Afrique, vous avez beaucoup de micro-entreprises. Mmh. Ensuite, vous avez les PME et vous avez un petit groupuscule de corporate qui contrôle effectivement la PME. Parce qu'une PME, très souvent, est un sous-traitant du corporate. Elle ne peut très souvent pas faire sans les entreprises corporate et sans l'État, parce qu'ils font les marchés publics. Maintenant, le choix des financements, les banques n'ont pas su aussi financer le développement, les investissements.
Oui, je voulais dire, les investissements productifs.
Productifs. Peut-être, parce que l'excuse qui revenait tout le temps, c'était « Oh, les banques n'ont pas les ressources longues, c'est les ressources courtes. » Donc, nous sommes beaucoup plus en même de financer tout ce qui est besoin en fonds de roulement que d'aller financer effectivement les investissements. Donc,
que la consommation.
On finance la consommation, on finance des investissements sur 2-3 ans. Sachant très bien que, in fine, la petite PME ne pourra pas rembourser absolument effectivement ses investissements en 2-3 ans. Ou bien ce financement de 2-3 ans ne permettra pas effectivement d'aider une entreprise qui est en plein développement. Donc, le choix des types de financement, effectivement, est un problème. Mais on voit les choses qui commencent à changer parce qu'on voit de nouveaux produits apparaître sur le marché bancaire, du crédit bail, de la facturage au niveau des banques, les escomptes de factures qu'on fait de plus en plus, qui aident quand même énormément. On voit aussi des sociétés de capital risque qui commencent à s'installer, effectivement, en Afrique qu'on ne voyait pas du tout. Donc, il y a quand même, on a le marché boursier qui commence aussi à se développer progressivement et on espère qu'avec le temps et la mise en place des bonnes régulations et de la réglementation, ça permettra effectivement de financer cette part d'investissement qui nécessite aujourd'hui des financements à long terme. Donc, je pense qu'il y a des choses sont en train de changer progressivement, mais je pense aussi que ce dont on a besoin aujourd'hui aussi, c'est l'expertise. Parce que nous, au niveau de l'Afrique, nous rentrons effectivement dans ces financements dont nous ne maîtrisons pas toujours. Donc, ce que peut-être les autres peuvent nous apporter aussi aujourd'hui, c'est cette expertise, c'est cette connaissance. On ne demande pas de copier ce qu'ils ont fait, mais d'apporter effectivement cette lecture de la gestion des risques. Qui aujourd'hui on n'a pas, pourquoi on ne se retrouve pas effectivement dans des défauts de paiement qui peuvent une fois entraîner encore des créances douteuses et des difficultés au niveau des banques. Donc, je pense que les choses sont en train de changer, c'est progressif, mais l'accent doit être beaucoup mis sur la formation et la sensibilisation même des clients aussi.
Donc, à ce jour, les pays africains souffrent du manque d'infrastructures, de bases, de systèmes de santé viables, d'un système d'éducation, de recherche scientifique et technologique performant pour qu'il y ait un développement de l'agriculture et de l'industrie. Et les pays africains ont besoin aussi de beaucoup d'eau et d'énergie, comme n'importe quel autre pays dans le monde, et en urgence. À votre avis, par quel côté prendre ce problème et comment faire pour rattraper le retard dans ces domaines? Et les banques aussi arrivent-elles à financer ce genre d'investissement? Et est-ce que structurellement, les banques africaines sont équipées pour ce genre de travail, ce genre de financement?
Le financement des infrastructures est une grosse difficulté, il faut quand même l'avouer, pour les États. Trouver des financements. Ce que la plupart des banques aujourd'hui, lorsqu'ils décident de s'impliquer dans ces financements, le font en syndic.
C'est-à-dire en syndic.
C'est-à-dire plusieurs banques se regroupent et décident effectivement de financer un projet de type, parce qu'ils préfèrent beaucoup plus de type partenariat public-privé. Parce qu'effectivement, dans ce contexte-là, on a l'État qui est impliqué. On est sûr effectivement de l'expertise d'un privé, parce que cet aspect aussi est regardé, qui viendra effectivement mener les projets à bout. Parce que si on s'appuie rien que sur l'État, parfois il y a des difficultés en termes de suivi et en termes même d'expertise. Donc les partenariats publics-privés, effectivement, permettent aux banques commerciales de financer. Maintenant, est-ce qu'ils sont outillés?
Mais avant de passer à l'outillage, justement, est-ce que, par exemple, à quelle hauteur ces banques, même si elles se mettent en syndic, à quelle hauteur elles peuvent financer un projet? Est-ce qu'elles peuvent financer, par exemple, la construction d'une centrale nucléaire?
La construction d'une centrale nucléaire.
Qui pourrait coûter, par exemple, supposons que c'est l'EPR français qui coûte 5 milliards d'euros.
J'ai été responsable des prêts syndiqués, donc j'ai fait du syndic avec des banques sur plusieurs projets avec des pays différents.
Oui.
Effectivement, il faut tenir compte des fonds propres de chaque part et du risque que chaque banque pourrait effectivement prendre sur un projet. Les limites et les ratios de division de risque aujourd'hui ne permettent pas aux groupes ni aux banques ou à certaines filiales d'aller au-delà d'un certain montant. Maintenant, nous avons aujourd'hui, nos pays ont effectivement besoin d'aller chercher les financements auprès des banques de développement. Vous avez quand même un certain nombre quand même de banques de développement qui financent ce type de projet, mais qui vont toujours vous demander la participation d'une banque commerciale parce qu'ils ne sont pas sur le terrain pour suivre le projet. Et qui vont toujours vous demander l'implication de l'État. Parce qu'ils ont besoin de cette caution en termes de bonne fin liés au projet. Donc, c'est pas possible. La banque commerciale ne peut pas seule financer les infrastructures. Il faut aller trouver effectivement des fonds. Et je dis bien des fonds à long terme. Mmh. Parce que même ces financements auprès des banques commerciales ne sont pas des financements à long terme. Ce sont des financements en relais. Très souvent, lorsqu'on veut avancer rapidement...
Alors que les infrastructures, ce n'est pas un financement au moins à
10-15 ans, ça ne fonctionne pas.
Ça ne peut pas marcher.
Donc l'État, parfois, qui finance ces projets, se retrouve dans un renchérissement du coût du financement. Pourquoi ? Parce que l'État va d'abord très souvent prendre un crédit relais au niveau des banques commerciales pour 3 ans, 2 ans, pour démarrer le projet. Le temps pour lui, très souvent peut-être, de conclure au niveau des due diligence de la banque de développement, ou le temps pour lui de rechercher des financements auprès d'autres bailleurs. Donc, vous aurez effectivement le premier financement qui a forcément un taux d'intérêt des banques commerciales. Et après, vous aurez le financement des bailleurs, mais ça ne viendra pas toujours équilibrer les choses. Donc, on se retrouve très souvent dans un renchérissement en termes de frais financiers des gouvernements. Donc, ce qui serait bien pour le gouvernement, c'est de pouvoir trouver ces financements auprès des États. Je suis ravie qu'on s'est retrouvés ici. Donc, c'est l'une des problématiques, effectivement, qui intéresse aujourd'hui les États. Parce que j'ai travaillé sur des projets liés à l'énergie, liés à l'eau, liés à l'électricité. On a besoin, effectivement, l'État a besoin, effectivement, des fonds sur du long terme, a besoin de l'expertise, parce qu'il ne suffit pas aussi de venir donner des fonds. Oui. Il faut l'expertise derrière pour qu'il y ait une bonne fin, effectivement, et que le projet qui est mis en place reste dans la durée. Qu'on ne commence pas à un moment à recolmater les brèches parce qu'il y a eu des défauts en termes de construction, en termes de mise en œuvre. Donc, il y a un besoin énorme de cette expertise et un besoin énorme de trouver des financements auprès d'autres États ou bien auprès des fonds d'investissement ou bien auprès des banques de développement.
D'accord. Alors, une dernière question pour cette première partie de notre entretien. Que devraient faire les banques alors, à votre avis, pour moderniser leur mode de fonctionnement, notamment en accélérant les processus de numérisation, afin qu'elles puissent prendre pleinement leur place dans le financement efficace de l'économie réelle? Parce que c'est ça qui manque en Afrique. C'est le financement des entreprises, créatrices de richesses. Comme vous l'avez noté tout à l'heure à juste titre, l'agriculture, la transformation agroalimentaire, le médicament, et ainsi de suite. Et puis en quoi une coopération avec la Russie pourrait aider justement les pays africains dans ce sens?
Je pense que je vais m'arrêter sur le système parce que en Afrique, les systèmes bancaires changent un peu selon les régions. Vous avez l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc, les mécanismes et la régulation, elles sont différentes de part et d'autre des régions. Peut-être un peu plus approximative, un peu plus proche entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais il est clair aujourd'hui que, de manière générale, tel que le système bancaire africain est conçu, vous avez les banques européennes qui sont sur le marché, vous avez les banques sud-africaines, vous avez les banques panafricaines qui sont nées comme Ecobank, aujourd'hui, qui est BGFI, comme BGFI Gabon, le groupe BGFI, qui se déploie. Et vous avez les banques américaines qui, de plus en plus, sortent du marché subsaharien. Standard Chartered, Citi, qui sortent un peu. Bon, ils sont à même de mieux expliquer pourquoi, effectivement, ils sortent de ce marché-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Russie peut nous apporter ? ce que la Russie peut nous apporter, c'est nous sortir de ce déséquilibre qu'on a aujourd'hui. Parce que vous avez...
C'est-à-dire déséquilibre.
Ce que j'appelle déséquilibre, c'est que on aime parler des banques panafricaines. Mmh. Mais vous aurez toujours des banques panafricaines qui ont dans leur actionnariat cette tendance européenne. Il y a ce poids.
D'accord, donc s'il y a juste le label...
Il y a le label,
mais derrière,
ce ne sont pas que les fonds des Africains.
Ouais.
Donc il faut effectivement... On se retrouve dans une situation... Moi, je prends un exemple. Hein, si vous allez... Vous êtes en défaut de paiement auprès de deux banques étrangères, mm-hmm. vous aurez du mal après à trouver... du financement dans les autres banques, hein, parce que effectivement, même si on peut dire que vous êtes en défaut de paiement et il faut pas vous financer, mais la banque aussi a pour fonction de conseiller de restructurer une entreprise, c'est possible. Mais très souvent, le client se retrouve dans une situation où on se passe le mot en termes de moralité du client, mmh. et le client ne pourra plus très difficilement se faire financer. Effectivement, ailleurs. Je prends le cas du Cameroun. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez deux banques actionnariat marocaines. Mm-hmm. Vous avez trois groupes panafricains. Donc, deux groupes de l'Afrique centrale, un groupe de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez trois banques actionnariat étatique camerounais qui ne font pas réellement le contrepoids parce que ce sont des banques qui ont eu des difficultés et l'État a décidé de rentrer dans l'actionnariat pour restructurer. Mmh. Donc c'est pas le même levier. Et maintenant vous avez les banques françaises. Et vous avez Standard Chartered ou Citibank qui s'intéresse plus au trade, c'est pas le financement des PME.
D'accord, le commerce uniquement.
Voilà, ils préfèrent beaucoup plus du commerce que d'aller financer une PME. Une PME, non, c'est pas trop leur activité. Donc, si aujourd'hui on avait des banques, par exemple, russes, effectivement au Cameroun, vous aurez...
peut-être même des financements publics russes.
Vous aurez un contrepoids Maroc, France... panafricaine, entre guillemets. Mmh. Donc, vous avez un autre acteur qui rentre sur le marché qui permet d'avoir ce contrepoids. Mmh. Parce que les deux panafricains, vous rentrez dans leur actionnariat, on se comprend. Mmh. Donc, on a besoin de ce contrepoids qui n'existe pas aujourd'hui. Maintenant, comme en même temps, le marché est très, très restreint. Parce que qu'est-ce que j'appelle marché restreint ? Vous avez de grosses entreprises corporate qui sont des entreprises européennes. Parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous avez des grosses entreprises françaises, vous avez la brasserie, vous avez Orange, vous avez le sud-africain MTN, je veux dire, il est plus gros.
Oui, oui.
Vous avez les entreprises, le port qui est Bolloré. Vous avez les entreprises agricoles, Socapalm, qui, dedans, Bolloré est toujours actionnaire là-dedans. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où la plupart des PME sont sous-traitants de ces entreprises. Donc, leur survie dépend de ces entreprises. Donc, dès lors qu'ils peuvent avoir une situation difficile avec une des entreprises ou un déséquilibre au niveau des banques, ils n'ont plus de levier.
Oui.
Ils n'ont plus de levier. Pourtant, s'ils avaient...
C'est-à-dire que c'est une espèce de conglomérat c'est monopolistique, monopolistique et qui a c'est comme une pieuvre qui a
des
ramifications, des tentacules un peu partout.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la Russie peut nous apporter ? Ce que la Russie peut nous apporter, si elle a des banques, c'est de créer de nouveaux champions au travers des PME existantes. Parce qu'on est.
Et certainement avec de nouvelles méthodes de travail,
voilà.
Une nouvelle politique.
Avec une nouvelle politique.
Pas pour reproduire le même problème.
Même schéma, voilà.
Ouais.
S'inspirer des difficultés qui a pu avoir, améliorer, apporter leur expertise, apporter aussi leur façon de gérer le risque, qui peut être apporté aussi la question des bonnes gouvernances, effectivement, dont on a besoin dans nos pays africains. Donc, il y a cette capacité pour la Russie de venir nous créer de nouveaux champions. Et c'est de ça dont nos pays ont besoin aujourd'hui pour effectivement se développer au niveau du tissu économique. Parce que si on a les mêmes PME, on a les mêmes corporates, en réalité, vous avez un marché qui est cloisonné.
Absolument.
Donc, on aura beau dire, effectivement, les États ne font pas leur travail. Oui, les États font leur travail. Mais tel que le marché aujourd'hui, l'État non plus n'a pas un vrai levier. Au Cameroun, le président de la République a lancé un programme depuis 10 ans. Ça, par contre, je remercie là une vision là-dessus. De créer une agence qui ne gère que les PME. L'idée étant de pouvoir effectivement financer aussi des activités qui ne seront pas du tout financées au niveau des banques. Tout à l'heure, on parlait des banques étatiques. L'idée était aussi de dire les start-up aujourd'hui, ils ont du mal à trouver des financements dans ces banques-là. Dès lors que l'État est quand même actionnaire dans certaines banques, ces start-up peuvent effectivement être financées, décollées, et après, effectivement, il y a un relais qui peut se faire d'une autre manière. Donc, je dis, il y a cette problématique de pouvoir effectivement créer modifier le tissu économique de manière générale. C'est ce que même nos gouvernants ont des difficultés à faire. Et ce n'est pas de leur fait, parce que le système, la pieuvre, après, elle est partout. Donc, je pense effectivement que la Russie a beaucoup de choses à faire en Afrique.
D'accord.
A beaucoup de choses à faire en Afrique.
Et par rapport, est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'étendue? Au moins, même si dans le système actuel, à quelle hauteur les entreprises participent au PIB du pays? Celles qui créent de la richesse, hein, je ne parle pas d'autres.
Je vais éviter de donner des chiffres et des pourcentages. Mais je prends le cas du Cameroun. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, quand vous rentrez dans le tissu économique camerounais, quelles sont les entreprises qui, effectivement, apportent créent de la richesse? Au niveau du pays, vous avez les entreprises agroalimentaires, parce que je ne veux pas parler des hydrocarbures, hein, parce qu'on sait qu'ils sont toujours... Donc, il y a beaucoup il y a l'agroalimentaire, il y a l'agriculture, parce que le Cameroun est un pays où, effectivement, les Camerounais s'adonnent beaucoup à l'agriculture.
Est-ce que le pays arrive justement à assurer son autosuffisance en termes de produits agricoles?
Il y a de l'autosuffisance, il y a de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Mais à un moment, l'État a dû faire le choix du financement de certaines chaînes de valeur.
D'accord.
Aux dépens d'autres. Il a fallu faire un choix. Donc, vous allez arriver au Cameroun, vous allez trouver certaines filières qui sont beaucoup plus financées que d'autres filières. Je prends de les filières de produits de base sont financées, cacao, café, coton, parce que l'État effectivement a besoin de cette devise pour son économie. Maintenant, quand vous rentrez dans les produits vivrières, on a dû faire le tranché, on a dû faire le choix de certaines cultures, pousser certaines filières comme la filière banane plantain, la filière manioc, parce que le manioc est l'un des aliments qui est consommé de manière variée et diverse au Cameroun et qui se retrouve presque dans toutes les couches sociales, comme le riz
ou comme le couscous pour l'Afrique du Nord.
Voilà, on a fait le choix de la filière maïs aussi, qui est nécessaire pour l'élevage et pour la consommation courante. Donc, l'État a dû trancher. L'État a dû trancher, ce qui fait que vous avez des filières où, effectivement, on peut développer, mais il n'y a pas les moyens.
D'accord.
L'État n'a pas ses moyens. Et je pense que tout à l'heure, mais qu'est-ce que la Russie peut faire pour nous? Nous apporter, parce que la Russie est un grand producteur sur le plan agricole. Ils ont cette expertise sur le plan agricole. Ils ont cette expertise au niveau de la gestion des données en termes climatiques. Parce que ce qu'il faut comprendre en Afrique centrale, c'est que vous avez des régions qui sont désertiques, une partie qui est la forêt, une partie qui est la savane. Donc, c'est pas pareil partout.
D'accord.
Donc, il y a cette expertise qu'ils peuvent nous apporter au niveau de nos pays. Je dis même de manière générale en Afrique, il y a cette expertise, il y a cette connaissance du terrain. Ils se sont très bien développés au niveau de l'irrigation, de la maîtrise de la gestion de l'eau, qui on n'en parle pas beaucoup, qui pourrait être une des problématiques dans les années à venir pour l'Afrique.
Absolument. Absolument, comme dans beaucoup de régions du monde, l'eau devient vraiment... On se demande d'ailleurs s'il ne sera pas le pétrole sur lequel vont se battre beaucoup de gens.
Donc, je peux même déjà dire à la Russie que voilà, effectivement,
un créneau,
un secteur qu'on a besoin de développer. L'Afrique a vraiment besoin de cette expertise-là.
D'accord.
Tout à l'heure, on parlait de l'énergie. C'est beaucoup plus les barrages. Mais aujourd'hui, je prends toujours l'exemple du Cameroun. Il y a un besoin énorme d'investisseurs pour des barrages dans certaines zones. Donc, l'État est à la recherche des investisseurs sur ce plan. Sur l'aspect énergie solaire, parce que... On a essayé d'encourager le secteur de se déployer, mais ça ne fonctionne pas vraiment.
D'accord.
Donc, il y a l'agriculture, l'énergie, l'eau, qui sont des sujets, effectivement, très importants en ce moment, de manière générale pour l'Afrique.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Nicole Ngo-Bononok pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Nicole Ngo-Bononok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun. Nicole Ngo-Bononok, je vous salue de nouveau. Et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, cette partie, elle sera consacrée au système CFA. Le franc CFA, pour colonie française d'Afrique, a été créé par le général de Gaulle le 26 décembre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le franc CFA est devenu la monnaie officielle de tous les États africain se trouvant sous domination française et est devenu depuis 1961 le franc de la communauté financière africaine. Et puis, à ce jour, il demeure la monnaie officielle de tous les pays, donc des 16 pays de la zone CFA.
C'est vrai que la question du franc CFA revient de plus en plus depuis quelques années. Beaucoup d'intellectuels africains souhaiteraient que les pays se désengagent de ces accords qui ont été signés avec la France, cette parité franc-CFA à l'Union européenne par rapport à l'euro, parité franc-CFA-euro, pas l'Union européenne, parité franc-CFA-euro, des accords avec la France. On a d'ailleurs vu effectivement la création de l'écho.
Oui.
Au niveau de.
Mais ce n'est pas encore mis en branle.
De l'Afrique de l'Ouest.
Ouais.
Qui n'est pas encore mis en branle. Je vais avoir le discours du banquier avant d'avoir le discours de
l'homme politique.
De l'homme politique. En tant que banquier, moi, je dirais que sortie du monnaie demande une préparation. Il y a des enjeux derrière l'utilisation d'une monnaie. Il y a de la dette d'un pays qui peut être adossé à un moment à cette devise. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette en euros? La deuxième chose, il y a un questionnement à mener, parce que je pense qu'il y a eu le sommet de l'Afrique centrale il y a 2 mois, avec tous les présidents de l'Afrique centrale. Leur conclusion au moment de la question de la sortie du franc CFA par rapport à la parité a été de dire « nous donnons le temps à la réflexion ». Je pense que donner le temps à la réflexion, c'était aussi qu'ils s'interrogent effectivement sur les conséquences qui peuvent être économiques au moment de la sortie. Je pense que c'est aux États de s'interroger clairement qu'est-ce que cette parité, pendant plusieurs années, ont pu leur apporter. Parce qu'à un moment, ce qu'on avait dit, c'est que la parité permettait effectivement de maîtriser l'inflation, de booster le commerce à l'international.
Oui.
Il faut faire un bilan.
Oui.
Est-ce que ça a boosté? Est-ce qu'effectivement, on a pu maîtriser l'inflation? Est-ce qu'on a même financé l'économie? Parce que cette parité fait en sorte que les banques commerciales aussi ont du mal à donner du crédit. Parce qu'effectivement, la banque centrale régule le financement. Parce qu'un financement peut entraîner la sortie des devises. Donc, puisqu'il faut qu'il y ait une partie des devises qui vont au niveau des comptes des opérations du Trésor français, on régule. Donc, on fait le choix de ce qu'on finance. Peut-être on ne financera pas beaucoup plus du trade, parce que le trade a besoin de devises. Peut-être on ne financera pas beaucoup plus les investissements, achat des machines, puisqu'il faut payer en devises.
Mais il y a aussi la question du dépôt de 50% des réserves, justement pour recevoir en contrepartie les francs CFA. Ça aussi, c'est déjà, ça prive le pays.
Ça prive le pays de devises.
De la moitié de ses devises.
C'est pour ça que je dis, il faut que les États fassent un bilan. Qu'est-ce que cette parité a pu nous apporter? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, les pays africains, nous décidons que nous continuons à rester dans cette parité? Et effectivement, qu'on le veuille ou pas, et à subir les soubresauts du marché européen.
Ouais. Parce que là, adossé à l'euro, ce n'est pas uniquement la France qui profite, mais c'est toute l'Europe.
Toute l'Europe qui profite. Ouais. Donc, cette problématique doit être mise sur la table et répondre à cette question. Maintenant, sur la question des accords, on revient toujours au gouvernant. Tout à l'heure, je disais ça dès le début. J'ai vu au niveau de l'écho, on disait, bon, il y a un certain nombre de termes, d'articles qui ont été changés au niveau des nouveaux accords. Le compte de garantie a été maintenu. On a enlevé, par exemple, la présence des administrateurs français au niveau de la gouvernance. Donc, il y a un certain nombre de choses qui paraît-il, a été modifiées. Donc, est-ce que maintenant, à la fin, on dit, parce que on revient toujours, il y a un sujet qui revient toujours au Cameroun. Alors, si vous allez dans les banques, on va vous dire, il n'y a pas l'euro, il n'y a pas le dollar, il n'y a pas les devises. Est-ce que l'idée n'est pas peut-être d'aller vers la mise en place d'un panier de devises?
Pourquoi pas ?
Qu'on choisirait ensemble par rapport au partenariat et aux choix stratégiques futurs
mais
qu'on
se
fixe.
Est-ce que d'un point de vue, justement, des accords donc, qui régissent le Franc CFA, ça est peut-être être réalisé ? Est-ce que les États africains peuvent, par exemple, dire que nous voulons, en plus du dollar et de l'euro, du yuan chinois, de la roupie indienne, du rouble russe, et ainsi de suite ?
Pour ma part, je pense que si les présidents de l'Afrique centrale ont pu dire après le sommet qu'ils ont demandé qu'on mène une réflexion sur cette question, ça veut dire qu'il y a bien un levier qui leur permet de changer.
Mmh.
Je pense que c'est une déclaration qui ne peut être faite que s'il y a un levier pour changer.
Mmh.
Donc, je pense aussi que la mouvance mondiale, les difficultés bancaires dont on ne s'attendait pas qui arrivent, je pense que c'est un nombre de facteurs aussi peuvent pousser à une réflexion rapide. Avoir un panier de devises ne veut pas dire qu'on n'aura plus l'euro dedans.
Oui.
Personne n'a jamais dit qu'on
ne veut... Ça ne sera pas la domination.
Personne n'a jamais dit qu'on ne veut pas l'euro.
Oui.
On veut l'euro, mais on veut l'euro avec autre chose.
Mmh.
C'est ce que les gens disent. Les Africains n'ont jamais dit enlever l'euro. Les Africains disent, nous ne voulons pas de ce contrat qui est adossé rien qu'à l'euro.
Mmh.
Nous voulons des accords qui nous permettent d'avoir des leviers. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des opérateurs économiques qui vous disent, lorsqu'il me faut effectivement... acheter de la marchandise à l'étranger, je dois attendre 3-4 semaines, 2 mois, parce
c'est-à-dire
qu'il n'y a pas de...
les intrants
oui,
de l'industrie.
Je n'ai pas de devise, parce que vous allez à la banque, on vous dit qu'il n'y a pas de devise.
Oui.
Il faut patienter. Pourtant, s'il y avait un autre levier, une autre devise,
mm-hmm.
les gens pourraient effectivement faire le choix d'une des devises qu'on a choisies dans ce panier.
Mm-hmm.
Donc, je pense que la problématique, moi j'ai toujours dit, on a une relation avec la France, avec la Russie, avec les États-Unis, avec tout le monde en Afrique depuis plus de 50 ans. L'idée n'est pas que l'Afrique reste statique. Le monde bouge. C'est pas moi qui a créé ce mot. En ma langue, il n'y a pas ce mot globalisation. Le mot est venu d'ailleurs. Donc, la globalisation veut dire que tout le monde, les choses bougent et que tout le monde doit bouger ensemble. Peut-être pas au même rythme, mais les gens doivent bouger, les gens ne restent pas statiques.
Mm-hmm.
Donc, moi, je souhaiterais que ce discours où j'entends de temps en temps... je ne vais pas dire les Européens, les Français dire « Bon, l'Afrique ne veut plus de nous. » Non, l'Afrique n'a jamais dit qu'elle veut plus de vous. L'Afrique dit « Nous ne sommes pas quelque chose qui vous appartient seul. »
Nous ne sommes pas la chasse gardée, comme
non,
on dit.
Nous ne sommes pas votre chasse gardée. Nous aussi, on a besoin de se développer.
Mm-hmm.
Donc, pour qu'on se développe, nous avons besoin aussi de regarder ailleurs et de voir effectivement si d'autres peuvent nous aider à aller plus loin.
D'autant plus que les relations avec la France, puis avec l'Europe, elles durent depuis les indépendances et résultat...
elles durent même depuis l'esclavage.
Ouais.
Il y a eu l'esclavage, hein, parce qu'elle dure depuis plus de 3 siècles.
Mmh. Et le résultat est plus que édifiant.
Donc, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Et que tout le monde arrive, nous tous, on arrive à avancer.
D'accord. Et pour la question, justement, donc, il y a Macron, lors de sa dernière tournée en Afrique, il avait parlé de la fin de la France-Afrique. Donc, et puis, il a dit qu'il fallait transformer l'aide au développement que la France apportait aux pays africains ont des investissements directs, beaucoup plus qu'une question de, d'aide au développement. Mais il y a des spécialistes africains qui disent, justement, cette aide dont la France se gargarise, c'est en fait, ce ne sont que les fonds qui sont alloués à l'aide, ne sont que les fonds qui sont récoltés grâce au dépôt des devises des pays africains dans des comptes rentables. Et c'est en fait les intérêts qu'ils engrangent sur ça, qu'ils utilisent pour financer, parce que la question est simple. La France, elle a une dette qui dépasse son PIB. Où elle pourrait trouver l'argent alors qu'elle n'arrive pas à financer les retraites pour financer l'Afrique. Si elle n'arrive pas à financer la retraite, donc comment elle pourrait financer 16 pays faisant partie de la zone CFA? Qu'est-ce que vous en pensez de...
Je vais d'abord avoir une lecture de banquier et de financier. Une lecture très froide. Quand le banquier... Vous allez toujours voir le banquier qui vous dit « J'ai une fondation, je vais faire les dons. »
Ouais.
Et il ira toujours faire les dons chez un de ses clients. Mais l'argent qu'il utilise pour aller faire les dons, c'est bien l'argent du client.
Oui, absolument.
Il a dû prendre un crédit, il a payé les intérêts, il a dû ouvrir un compte et il a payé les frais, les commissions. Donc, la problématique que celui qui a un compte d'opération où il gagne des intérêts, utilise des intérêts pour revenir en Afrique, dire qu'il finance, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas ça qui me choque. Moi, ça ne me dérange pas. Je dis, chacun met en place le système qui le sied. C'est à l'autre en face d'être vigilant pour qu'il ne se fasse pas avoir.
Ouais.
Moi, ce qui me choque dans l'aide au développement, déjà, c'est le mot aide.
Pourquoi aide, ouais? Ce sont des États souverains.
Voilà.
Les riches en matières premières.
Voilà.
Ils auront forcément besoin d'une aide au développement.
Déjà, le mot aide m'embête. Je dis, nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons nos richesses, nous avons de l'expertise, nous avons beaucoup de choses en Afrique. Donc, le mot aide, déjà, on pourrait commencer par le changer. La deuxième chose, l'aide au développement, je me rappelle depuis, j'avais l'âge de 6 ans. Et mon père était enseignant. Et il recevait très souvent, tous les 6 mois, des collègues français.
D'accord.
Et qui venaient à travers l'aide au développement. Donc, en réalité, moi, ce qui me dérange, c'est cette aide au développement où c'est toujours les experts français qui viennent travailler, parce que
c'est les entreprises françaises.
Ce sont les entreprises françaises, ce sont les Français. Donc, en réalité, vous allez aller dans ces organismes d'aide, vous trouverez des Camerounais qui sont chauffeurs, assistants de direction, qui ne gagnent même pas plus de 100 000 francs.
CFA.
Donc, l'aide au développement, in fine, repart en France, à travers, effectivement, les Français qui viennent travailler, qui nous disent, et effectivement, qui très souvent ne consomment même pas beaucoup dans nos pays, parce que s'ils consommaient, ce serait même déjà une très bonne chose. Donc, moi, c'est cette partie qui me choque. C'est pas tant le fait d'utiliser, non, ce côté, vraiment, moi, en tant que banquier, c'est à l'autre de se prémunir de ce genre de choses.
Oui.
Si l'autre n'a pas pu se prémunir du fait qu'on va utiliser ses frais, ses intérêts pour venir lui dire qu'on l'aide, c'est son problème.
Oui.
Mais il a une obligation de veiller au fait que si on dit qu'on vient l'aider, qu'on aide vraiment sa population, c'est-à-dire à travers la création d'emplois, à travers véritablement de la booster la consommation. Moi, c'est la chose qui me dérange le plus, et le mot aide. Je dis, nous ne sommes pas des mendiants. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on nous aide.
Une dernière question, Madame Bonoloc, Ngo Bonoloc. La question de du taux de change de l'euro et le franc CFA. Actuellement, il est presque à 659 francs CFA pour 1 euro. Est-ce que ça ne pénalise pas justement d'une manière mais vraiment catastrophique les économies africaines pour pouvoir se développer ?
Il est clair que...
Et puis c'est un taux de change fixe, c'est la France qui le fixe, c'est la France qui a dévalué le franc CFA en 1994 par une décision politique, tout simplement. Et
il est clair que cette parité est forte avec des économies parfois faibles et très faibles, affecte ces pays. Ils ne peuvent pas se développer. C'est compliqué de se développer avec cette parité. Elle est forte.
Moi, j'ai fait des petits calculs. Je me suis dit, par exemple, si un pays africain veut, par exemple, armer, s'il veut équiper son armée, un avion simple comme ça de chasse, par exemple le russe, le Su-30, il coûte au moins 30 millions de dollars, la base, 30 millions de dollars. Si on transforme 30 millions de dollars en francs CFA, pour beaucoup de pays, c'est le budget de plusieurs ministères.
Moi, c'est pour ça que je dis qu'il va arriver un moment, et peut-être c'est cette réflexion qui est en train d'être faite, que les gouvernants tranchent sur la question. Mm-hmm. Est-ce que nous décidons, nous faisons le choix de maintenir la parité parce que nous disons que nous avons besoin d'une monnaie stable?
Oui.
Ou bien nous disons, nous faisons le choix du développement social?
Absolument.
Et nous sortons de cette parité qui est extrêmement forte pour d'autres pays. Pour d'autres pays, parce que quand vous allez en Afrique centrale, la Centrafrique n'est pas comme le Cameroun. Le Tchad n'est pas comme le Gabon. Le Congo n'est pas comme le Gabon. Donc, vous avez un déséquilibre de part et d'autre.
Déjà, c'est le même problème de l'Union européenne.
Vous avez
si
un déséquilibre.
L'Union européenne n'arrive pas à fonctionner justement à cause du...
On a vu les Grecs sortir, effectivement, de l'euro. Mmh. Parce qu'effectivement, ils ont estimé à un moment que cette parité était un blocage pour la gestion de leurs dettes. Mmh. Donc, je dis, lorsqu'on regarde ça de manière froide, on se rend très bien compte que cette parité ne permet pas un développement réel de nos pays. Maintenant, est-ce que les gouvernants se sont dit « nous, on fait le choix de la monnaie stable » Je ne sais pas. Peut-être. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est cette stabilité de la monnaie.
Oui, mais la monnaie, c'est un instrument.
Mais la monnaie doit être un instrument, en réalité. Donc, il faut qu'ils tranchent sur la question. Moi, mon avis personnel serait qu'on aille vers un panier de devises.
D'accord.
Qui faciliterait effectivement les choses. J'aurais dit qu'on n'a jamais dit qu'on ne veut pas de l'euro. Mm-hmm. Nous, on veut de beaucoup de choses.
D'accord. Et cette question de l'écho, c'est exactement la même chose, parce qu'en réalité, c'est une autre dénomination du franc CFA, puisque les mêmes conditions de fonctionnement du franc CFA sont maintenues dans la question de cette nouvelle monnaie.
Je ne peux pas dire que je maîtrise la question, mais ce que moi, personnellement, j'ai compris de la question, c'est que ce sur quoi on a le plus travaillé, on a modifié un peu, a été... la baisse du taux du compte des opérations. Mmh. Et on a, puisqu'on a maintenu quand même la garantie.
La garantie, oui.
Et on a travaillé peut-être aussi sur les Français qui étaient membres
du
conseil d'administration. Mmh. Moi, c'est ce que je résume, ce que j'ai compris de la question. Ouais. Mais fondamentalement, le reste...
Le fond du problème n'a pas changé. Ouais. D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Nicole Ngo Bonoloc, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la nécessité d'un système bancaire et d'une monnaie africaine pour financer le développement. J'espère vous retrouver dans quelques semaines, peut-être dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci beaucoup.
Je vous en prie. C'était Nicole Ngo-Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun, ex-PDG de banque. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.